Bonsoir. Deux thèmes sont au menu de la tribune de la presse de ce jour. D'abord, deux jours de deuil national ont été décrétés lundi et mardi dernier après la mort de plus de 40 personnes victimes d'inondations, d'écroulements des maisons et de glissements de terrain lors de la pluie diluvienne de jeudi dernier à Kinshasa. 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, cela fait un an depuis la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre par la classe politique et la société civile. Une année après, quel bilan dressé de la mise en application de cet accord? Ce sera notre deuxième thème. Et pour en parler, je reçois Dominique Dinanga. Bonsoir, chers confrères.
Bonsoir Alain Hurong et bonsoir à tous les auditeurs de la radio KPI.
Vous êtes journaliste à la radio Top Congo et FM émettant à Kinshasa. Pius Romain Roland, bonsoir cher confrère.
Bonsoir Alain, bonsoir à tous les auditeurs de radio KPI. Merci pour l'invitation.
Vous êtes journaliste à rdc26.com. Luc Malimbe, bonsoir.
Bonsoir Alain, bonsoir aux confrères ainsi qu'à tous les auditeurs de Radio Capitale.
Vous êtes correspondant de l'AFP à Bounia et directeur général du site web bouniaactualité.com. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission. Plusieurs sujets ont fait l'actualité cette semaine. Voyons comment la presse quinoise les a abordés dans cette revue de presse que nous présente Guy Maté.
Bonsoir. Les inondations causées par des pluies diluviennes à Kinshasa ainsi que les bilans de la mise en œuvre de l'accord ont défrayé la chronique. L'arrivée des premiers lots des machines à voter a aussi occupé les unes des médias quinois. Kinshasa, les victimes des inondations ont été inhumées, annonce le potentiel. Ce quotidien précise que les 48 victimes des inondations dues aux fortes pluies qui se sont abattues jeudi 4 janvier et dimanche 7 janvier ont été inhumées mardi 9 janvier à Kinshasa, dans différents cimetières de la capitale. Sur le chapitre politique, la prospérité s'interroge sur sa manchette, crise en RDC, jusqu'où irait Sassou. Et la consoeur rappelle les conos de la Cinco où Tembi et Cholet ont été à Brazzaville mardi 9 janvier dernier. Ils y ont rencontré Denis Sassou Nguesso pour partager avec ces derniers quelques préoccupations liées notamment à la problématique de la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016, ainsi qu'à la nécessité de la tenue des élections apaisées en RDC, note la prospérité, qui se pose une série des questions, notamment, que peut bien faire Sassou? A-t-il vraiment les mains libres et la carrure nécessaire pour être écouté par toutes les parties impliquées dans la crise congolaise? Coup dur pour la RDC, la Belgique révise sa coopération, s'exclame l'avenir qui précise en citant la RTBF qu'à cause de la répression de la marche convoquée par les comités laïcs de coordination le 31 décembre 2017, la Belgique a décidé de la fin d'une série d'interventions en matière de coopération qui devraient être mises en œuvre directement par les autorités congolaises. Et ce quotidien parle d'un montant total de 25 millions d'euros. Malaise au rassemblement, le G7 demande une réunion d'urgence à Félix Tshisekedi, note la référence plus. Au sujet des élections, Radio Capiponet annonce que la CENI a réceptionné mardi dernier les premiers lots des machines à voter destinées à la sensibilisation de la population. Et les sites précisent que les rapporteurs de la CENI a invité à cette occasion les Congolais à se préparer à aller aux urnes dans les prochains mois. Sur le même chapitre, Forum des As se basant sur les récents rapports transmis au Conseil de sécurité, titre sur sa manchette, Antonio Guterres exhorte l'opposition à souscrire aux élections. C'est par cette information que nous clôturons cette revue de presse. Merci.
Merci Guy Maté. Dominique Dinanga, vous êtes journaliste à la radio Top Congo FM, émettant à Kinshasa. Dans l'actualité, Guy Maté l'a également dit, c'est l'arrivée à Kinshasa depuis mardi dernier du premier lot de 8 kits de machines à voter. Peut-on affirmer que le chemin vers les élections est plus que balisé?
Vous demandez si le chemin vers les élections est balisé, c'est le souhait de tous. Mais la première question que tout le monde doit se poser, est-ce qu'il y a une volonté politique d'organiser ces élections? Aujourd'hui, Corneille Nanga a tenu à tout prix à faire avaler cette pilule amère, cette histoire de machine à voter qui a prouvé ses limites sous d'autres cieux. Aujourd'hui, on nous amène une technologie. Certes, c'est trop beau à entendre ce qu'on dit de cette machine. On parle bien de la rapidité, on parle bien de l'économie. Mais dans quelle société on veut appliquer cette histoire? On veut directement sauter déjà avec le système des bulletins. Il y a eu tout ce qu'il y a eu en 2011 et aujourd'hui on nous amène la machine à voter. On se demande si cette histoire va marcher et quand Corneille Nangaa vous dit que sans la machine à voter, nous n'aurons pas les élections le 23 décembre. Mais c'est là où nous devons nous poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il est en train de manigancer avec cette histoire? L'avenir nous en dira plus. Mais pour l'instant en tout cas, il est difficile de dire s'il y aura ces élections ou pas. Et surtout avec les inquiétudes, vous avez suivi avec moi, hier, que même le secrétaire général de Nations Unies a émis des inquiétudes sur le respect même de cette date du 23 décembre au regard de ce qui est en train de se passer actuellement au pays. Donc, il y a de quoi s'inquiéter pour l'instant.
Merci. Pius Romain Roland, vous êtes journaliste à RDC26.com. Avez-vous autant peur de la machine à voter que Dominique Dinanga?
Non, je n'ai pas peur, puisque j'ai été dans le séminaire de la CENI. Je suis parmi les journalistes qui avaient voté par expérience. J'ai vu, c'est une machine, certes, mais ça nous épargne de beaucoup de choses. Vous savez que à la Cour suprême de justice, s'il y a des contentieux électoraux, c'est puisque la plupart des candidats n'avaient pas des procès-verbaux. Il y avait des bulletins qui étaient brûlés. Il y avait des bulletins qui avaient été volés. Mais à l'heure actuelle, avec la machine, moi, j'ai vu la machine. Sauf fait le bulletin de vote, qui est un syllabus de 62 pages, qu'on a inséré dans la machine. Il suffit d'arriver sur la machine. Vous cliquez la photo ou le numéro de votre candidat. Les bulletins sortent immédiatement. Et à la fin des opérations, vous avez les procès-verbaux.
Et donc, ce n'est pas une machine à frauder, comme le disent certains opposants.
C'est faux et archi-faux. Tous ceux qui le disent ne veulent pas aller aux élections. J'ai entendu mon frère, Dominique. Est-ce qu'il y a la volonté politique? Mais comment ne peut-on avoir la volonté politique? Dès lors, nous avons déjà la révision du fichier électoral qui est en cours. Nous avons la loi électorale qui est votée. Nous avons la machine, ou les machines qui sont là, qui remplacent les bulletins. Est-ce que vous pouvez imaginer? Nous sommes à 45 millions d'électeurs. Je suppose que nous serons 30 millions de votants. Il faut 30 millions de bulletins de vote à 62 pages avec les candidats que nous avons, les candidats fallacieux. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte? Dans un bureau de vote, tu te retrouves avec un bulletin de 62 pages, tu dois chercher ton candidat, ça va te prendre.
Et donc, brièvement, Pius, elle vient faciliter les choses, la machine à voter.
La machine vient faciliter les choses. Ceux qui ont peur de la machine, c'est ceux qui sont habitués aux fraudes et qui ne sont pas sûrs d'être élus.
Luc Malembe, correspondant de l'AFP à Bounia et directeur général du site web bouniaactualité.com. Comment à Bounia vous avez reçu cette actualité de l'arrivée du premier lot des machines à voter?
Ah bon, d'emblée, je dois dire que c'est une actualité accueillie diversement dans l'opinion à Bounia. Les gens considèrent cette machine comme une machine à voler, comme vous le disiez tantôt. Et d'autres saluent évidemment à l'arrivée de ces machines. Mais je dois dire que, en tout cas, du matin, ces machines n'ont pas reçu l'adhésion de toute la population. Je considère la CENI comme un technicien dont le patron, c'est le peuple congolais. Et si le patron, le peuple congolais, n'est pas d'accord pour cette machine, on sait que plus de 70% de notre population est analphabète. Comment ça va se passer concrètement? Il y a beaucoup d'inquiétudes et beaucoup on se demande pourquoi la CENI s'entête absolument à imposer cette machine à voter dans un pays qui n'est pas encore prêt à en arriver là. Et est-ce qu'on ne veut pas, nous-mêmes, on ne veut pas déjà préparer une contestation finalement des résultats que ces élections vont avoir? Parce que dès qu'on va utiliser ces machines, c'est une route ouverte pour la contestation. Beaucoup vont refuser les résultats demain, disant que c'est à cause de ces machines qu'on les a utilisées pour voler, qu'on a voté à la place des analphabètes, qu'on a impôts. Comment on saura exactement une femme qui est au village, ce qu'elle a écrit, c'est exactement ce que la machine a écrit.
Luc Malembe. Luc Malembe. Voilà, nous n'allons pas nous étendre sur ce sujet. Nous y reviendrons la prochaine fois avec force détail. Très rapidement, dites-nous, qu'est-ce qui fait l'actualité à Bounia, en Ituri, où vous vous trouvez? Très rapidement.
Oui, deux sujets ont fait la une à Bounia. D'abord, il y a l'arrestation des ministres provinciaux qui a été accusé pour viol sur mineur. Il avait été attrapé en compagnie d'une fille mineure de 17 ans dans une chambre d'hôtel. Et il séjourne maintenant à la prison centrale. Il y a également l'échange de vœux de la plus grande société minière de l'Ituri ici, la société minière de Kilomoto, qui d'ailleurs a tenu son sacré séance d'échange de vœux. C'était le week-end.
Merci, voilà. Merci Luc Malembe. Nous abordons notre premier thème sans désemparer. Plus de 40 personnes sont mortes, 4 blessées graves et des dégâts matériels importants. Tel est le bilan dressé par le gouvernement provincial de Kinshasa après la pluie qui s'est abattue la nuit de mercredi à jeudi 4 janvier dernier à Kinshasa. Selon ce bilan du gouvernement provincial, les quartiers d'Ilandos, Mososo et Kingabwa dans la commune de Limete sont les plus touchés. Ajouté à cela, la commune de Bandalungwa. Récit de Jean-Pierre Elali Koko qui a fait le tour des quelques lieux sinistrés. Cris de détresse de petits enfants du quartier Mososo Limité. Eux et leurs parents ont fui leurs habitations sous eau et se sont réfugiés sous une véranda de fortune. Ils sont tous traumatisés par la mort de papa Max, 73 ans, victime de l'écroulement du mur de sa maison. Sa fille Bébête, éplorée, décrit les circonstances du drame.
Nous avons été alertés par les voisins lorsqu'il a commencé à pleuvoir. Papa s'est dit, je vais aller voir. Dès qu'il est sorti, l'eau avec une pression inouïe est entrée dans notre maison. J'ai réveillé ma mère. Je lui ai dit que le mur s'est écroulé. D'un coup, je me suis souvenu que papa était sorti. Nous avons commencé à le chercher. À un moment, j'ai senti que j'ai piétiné son bras. Et puis, je l'ai soulevé. Malheureusement, il était inerte. J'ai appelé les jeunes garçons du quartier et nous l'avons conduit à l'hôpital. Et quand nous sommes arrivés là, on a constaté qu'il était déjà mort.
De l'autre côté du boulevard Lumumba, le quartier d'Ilandos est complètement inondé. Pas de circulation, les habitants cloîtrés chez eux, plusieurs appareils électroménagers endommagés. À Kingabwa, un mur mitoyen à hauteur s'est écroulé sur une habitation, tient sur le cou un homme et sa femme enceinte. Leur fille de 26 ans s'en est sortie avec une blessure à la jambe. Enfin à Bandal, 5 personnes ont péri sous les eaux de pluie. Merci Jean-Pierre Elali Koko, Dominique Dinanga, journaliste à la radio Top Congo FM et mettant à Kinshasa. Comment vous analysez ce drame?
Il faut d'abord déplorer cela et présenter les condoléances les plus attristées à toutes les familles qui ont perdu les leurs. Mais quand vous suivez très bien, le gouvernement s'appesantit beaucoup plus sur le nombre des morts et des blessés qu'il y a eu. Mais on ne parle pas du nombre des sinistrés. C'est vraiment désagréable, c'est vraiment déplorable dans une société où il y a déjà cette misère que vit la population au jour le jour. Aujourd'hui, il y en a encore qui viennent s'ajouter et on ne peut que condamner cela. 44 morts, c'est vraiment trop. C'est vraiment trop et comme on le dit bien, gouverner, c'est prévoir. Il y a des responsabilités qu'il faut établir à différents niveaux. Premièrement, c'est au niveau de l'État congolais. L'État a des experts. L'État a un ministère de l'urbanisme et habitat. Quand ces habitants, quand toutes ces populations allaient construire dans les lits des rivières, où étaient les gouvernants? Parce que ce sont eux qui devaient prendre des mesures que tout le monde était censé respecter. Parce qu'on sait aujourd'hui que la plupart des victimes sont ceux-là. Ce sont les habitants, ceux qui ont allé ériger leur construction dans les lits de rivières. C'est ça le grand problème.
Et donc l'État est totalement impuissant.
L'État est totalement impuissant. Ça, ce n'est plus secret pour personne. C'est le premier responsable dans cette affaire. Et deuxièmement, la responsabilité incombe aussi à ceux-là qui sont allés acheter des espaces ou ériger leurs habitations sur des endroits où ils ne devraient pas. Ça,
on doit vraiment en tenir compte. Comme je le disais, gouverner, c'est prévoir. Quelles sont les mesures aujourd'hui? On est en train, bien sûr, c'est tout à fait normal qu'on puisse assister à ceux qui ont perdu les leurs. Mais la meilleure façon de rendre hommage à ceux qui sont morts, c'est de faire à ce que tel drame ne se reproduise plus. On ne va pas dire qu'on va arrêter la pluie aujourd'hui. Il y en aura toujours, c'est un phénomène naturel. Mais au niveau de l'État, on doit prendre des mesures nécessaires pour que, quelle que soit la pluie, que ce genre de drame ne puisse plus se reproduire. En tout cas, c'est vraiment déplorable.
Pius Romain Roland, journaliste à rdc26.com, combien de deuils nationaux allons-nous avoir puisqu'il pleut régulièrement sur Kinshasa, il se pose des problèmes d'urbanisation, construction anarchique, et l'État est totalement impuissant, comme le dit Dominique Dinanga.
En partie, je suis d'accord avec lui. Mais le premier responsable d'abord, c'est la population elle-même. Puisque je me trouve mal à aller acheter une portion de terre sur l'espace où il ne faut pas construire.
Est-ce que, en posant la question d'une autre manière, Pius, est-ce que l'État ne serait pas le premier responsable qui devrait comprendre ce besoin de la population d'avoir un chez-soi?
Oui, vous avez raison. C'est-à-dire, nous n'avons pas d'abord la politique de logement. Lorsque je grandissais, j'habitais dans le quartier à Lubumbashi, où à quelques dizaines de mètres, il y avait ce qu'on appelait ONEL. Vous connaissez ONEL, Office National des Logements. Aujourd'hui, nous n'en avons pas. Nous n'avons ni la politique de logement, nous n'avons ni la politique d'urbanisme, nous n'avons ni la politique d'assainissement. Et c'est là où j'ai rejoint Dominique pour dire que l'État est impuissant. Mais qui est d'abord le premier responsable? Qui vit dans ces misères-là? C'est la population. Je prends mon propre exemple. Moi, j'habite Beaumarchais. C'est un terrain marécageux. J'ai connu l'inondation également. Mais imagine-toi, moi, j'écure mon terrassier presque chaque semaine. Mais lorsque vous curez, vous pouvez curer aujourd'hui. Demain, vous allez vous retrouver avec les déchets jetés là-dedans. Ce n'est pas l'État qui est venu jeter. C'est la population qui est venue jeter.
Il y a même des moments où vous le faites et le voisin ne le fait pas.
Ne le fait pas. Moi, j'ai balayé ma route à moi. Je la commence du début jusqu'à la fin. C'est maintenant là que j'ai abandonné puisque j'ai constaté que les gens se sont prélassés à constater que j'étais leur travailleur. Puisque j'ai curé même le devant de leur parcelle. Mais les responsables premiers, c'est la population elle-même. Parce qu'imaginez-vous, je suis non loin du marché Kabambare. Regardez devant le marché Kabambare. C'est plein d'immondices là-bas. Qui est venu jeter ces immondices? C'est pas les gouverneurs, c'est pas les bourgmestres, c'est la population elle-même. Et qui souffre? C'est la population.
Et l'État qui devait enlever ces immondices ne le fait pas. Totalement dépourvu.
Je suis tout à fait d'accord. Moi, je casque mon argent, je ne fais pas la publicité. Lorsque je parle, les gens qui sont dans mon quartier vont le témoigner. Moi, je casque mon argent. Mes 2000 francs, j'appelle un pousse-pousseur, il vient les ramasser les immondices, il va jeter à la décharge. Mais je parle des inciviques.
Et les décharges sont pleines aujourd'hui.
Les décharges sont pleines, c'est là où se trouve la responsabilité de l'État. La responsabilité de l'État, c'est pas devant la parcelle. La responsabilité de l'État, c'est là où se trouvent les décharges publiques qui devraient aller. C'est là où j'incombe la responsabilité de l'État.
Merci Pius.
Et comme je le dis, nous n'avons pas la politique d'assainissement. Est-ce qu'il y a des cantonniers dans ce pays? Est-ce que, monsieur le gouverneur, il y a des cantonniers dans ce pays? C'est là où j'ai rejoint l'idée de son excellence Justin Bitakwira. Lorsqu'il dit que Kinshasa est tellement vaste, est-ce que faudrait-il au moins diviser Kinshasa avec 4 ou 2 gouverneurs? Puisque il y a des coins où le gouverneur n'arrive même pas.
Merci. Luc Malembe, correspondant de l'AFP à Bounia et directeur général du site web bouniaactualité.com. Comment à Bounia vous avez reçu, vous avez suivi cette actualité concernant les inondations à Kinshasa?
Oui, Alain Hiron, j'ai deux choses à dire là-dessus. La première, j'ai suivi le discours des autorités par rapport à ces inondations, qui ont dit carrément que bon, ce sont des inondations naturelles, que ça arrive dans tous les pays du monde, même aux États-Unis. D'accord, Mais je me dis qu'à Kinshasa, il ne s'agissait pas d'inondations naturelles. Les inondations de Kinshasa ont une cause, elle est connue. C'est la salubrité à outrance de la ville aujourd'hui de Kinshasa. Et là, ça pose un problème du leadership de cette ville. Pourquoi on veut maintenir un homme pendant plus de 10 ans qui est pratiquement incapable de diriger cette ville, qui est incapable d'aménager Kinshasa? Je viens de suivre le débat avec les deux amis. Là, le grand problème, c'est la salubrité. Tous les caniveaux de Kinshasa sont bouchés. Mais l'eau n'a plus nulle part où passer parce qu'il y a les sachets plastiques, il y a des bouteilles plastiques partout. Voilà les grands problèmes. Il ne s'agissait pas des inondations comme ça se passe aux États-Unis ou ailleurs, où c'est des causes naturelles. Là, il y a une cause connue, c'est carrément l'absence du leadership, d'une gestion de ces immondices de Kinshasa. Et s'il y a un homme qui est incapable de gérer Kinshasa, moi je crois que la plus simple des choses, c'est de les dégager. Il y a d'autres personnes, certainement, même au sein du régime aujourd'hui, qui peuvent mieux diriger que Kinshasa. Je crois que le gouverneur actuel, je n'ai rien contre lui, mais il a tout donné de ce qu'il avait. Et aujourd'hui, il faut un nouveau leadership pour cette mégapole Kinshasa, et un leadership qui est capable d'utiliser les ressources que cette ville produit pour son aménagement. La ville de Kinshasa quand même produit énormément d'argent, dit Alain Roux. Mais ça fait quoi? Où va cet argent si on doit tout simplement, chaque fois qu'on compte des morts, j'ai vu même des photos qui circulaient où même l'hôtel de ville de Kinshasa était lui-même inondé. C'est quand même grave. Et de même, ça sera même la résidence du président ou quoi. Donc,
Luc Malembe.
Voilà, c'est moi. Oui.
Luc, il y a eu, on se rappelle, toute une politique autour des 5 chantiers, de la révolution, de la modernité. Est-ce que tous ces projets ont été mis à rude épreuve par ces inondations?
Oui, ça a montré que c'est ce projet-là ou ces chantiers-là n'ont même jamais existé. C'est des slogans électoralistes qu'on a utilisé, cinq chantiers, et puis on a utilisé ça comme slogan pour se faire élire, mais en réalité, c'est des slogans vains qui n'ont ni sens, ni début, ni commencement. Parce qu'on ne peut pas comprendre que plus de 10 ans après le leadership qui est à la tête de Kinshasa et du pays aujourd'hui, qu'on continue à compter des morts pour masse de salubrité d'une ville. C'est quand même grave, Alain Héron. Au 21e siècle, on peut compter des morts ou des catastrophes naturelles, nous n'avons pas récusé, mais pas des catastrophes qui pouvaient être évitées comme celle-là.
Merci, Luc.
Et si rien n'est fait, malheureusement, on ne pourra encore une fois que continuer à les compter.
Merci, voilà. Luc Malembe. Dominique Dinanga, échec ou pas des 5 chantiers de la révolution de la modernité?
Mais c'est un échec total. L'échec est vraiment puissant. En tout cas, il ne faut même pas poser la question parce que on n'a pas besoin d'avoir les yeux de lynx pour voir que M. Kimbuta, excusez-moi de citer son nom, a quasiment échoué. Mais j'étais un peu estomaqué autrefois. J'ai appris qu'il a été élevé, je sais pas, au rang ou au titre de docteur honoris causa pour la bonne gestion de la ville de Kinshasa qui est entourée des immondices, des odeurs nauséabondes. C'est vraiment honteux. Alors, il suffit simplement de passer non loin de l'hôtel de ville pour voir. Mais si, quand je suis passé par là, j'ai dit, mais si déjà au niveau de l'hôtel de ville, il y a une telle situation, à combien plus forte raison dans les communes reculées où le gouverneur n'arrive même pas, comme mon frère venait de dire que Kinshasa est vaste, il y a des endroits où le gouverneur n'arrive même pas, mais aller juste à 0 mètre de la résidence de l'exécutif provincial. Allez non loin, bien sûr, de l'hôtel de ville. Voyez là-bas les eaux stagnent comme pas possible. Je ne sais pas par où il était passé lui-même le jour où il y a eu cette pluie, parce que c'était envahi des eaux là. Et les caniveaux dont on parle, les caniveaux bouchés, les caniveaux sont bouchés de quoi? Ce sont les bouteilles en plastique. Mais je me rappelle qu'il y a dans ces pays, il y a eu une interdiction d'importer ou de fabriquer les emballages en plastique. Où est passée cette mesure? Kinshasa est très sale. Et quelque part, je me demande où est la responsabilité de l'Assemblée provinciale, ces députés provinciaux que nous avons élus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tous dans la poche du gouverneur. Ils ne font absolument rien parce que je pense que s'ils prenaient leurs responsabilités,
il prendrait des mesures nécessaires parce que, comme on le dit, même si cela fait mal, quand c'est médiocre, il faut prendre des mesures qui s'imposent. Quand on est médiocre, on dégage. On ne se maintient pas, c'est-à-dire on dirige mal, on ne parvient pas à remplir ses missions, on ne parvient pas à être à la hauteur de ses tâches, mais on tient tout le temps à être là. Mais ça, c'est dirigé par deux filles.
Pius Romain Rolland, est-ce que vous partagez l'idée de l'échec des cinq chantiers de la révolution de la modernité?
Oui et non. Oui, puisque la ville est très seule. Non, puisque le projet a été combattu par l'Occident. Ce sont les capitaux chinois qui devraient venir rendre le pays viable, puisque nous n'avons pas de techniciens. Nous avons prouvé à suffisance que depuis longtemps nous avons tué l'enseignement professionnel. Nous n'avons pas de techniciens. Il fallait qu'il y ait la main d'œuvre chinoise, mais ce projet a été combattu. Le peu qui a été fait est en train de s'écrouler. Je peux te citer quelques avenues qui font mal quand tu vas là-bas. Je prends mon avenue, Kabambare. Aujourd'hui, c'est la catastrophe. Partant de rond-point Willery jusque Flambeau, c'est la catastrophe. Rien que ces tronçons-là. Un petit trou qui commence, qui devient plus grand, et on n'arrive pas à boucher. Tu prends l'avenue Itaga, du marché Kabambare, jusque au niveau de Kassai, c'est la catastrophe.
Tout ça, est-ce que ce serait parce que les priorités sont ailleurs, au niveau des autorités?
Justement, tu as saisi les points pour lesquels j'ai toujours dit. Nous ne sommes pas prêts pour les élections. Nous ne sommes pas prêts pour avoir les députés nationaux et provinciaux. Nous ne sommes pas prêts.
Alors qu'est-ce qu'il faudrait avoir à la place pour selon
vous? Il faut l'ingéniosité de l'homme. Préparer une autre forme de la gouvernance.
Adaptée aux réalités congolaises.
Adaptée aux réalités congolaises. Beaucoup d'argent.
Une monarchie, un royaume.
Non. Pas de monarchie, pas de royaume. On peut demander, nous avons 26 provinces. Moi, j'ai toujours raisonné ceci. Nous avons 26 provinces. Dans chaque province, on peut en faire sortir 10 élites. 10 élites. Dans chaque province. On constitue une assemblée nationale. Ceux qui sont là, le 500 qui sont là-bas, bouffent de l'argent, qui peuvent construire de routes. Mon ami Dominique vient de parler des députés provinciaux de Kinshasa. Je me pose la question. Heureusement pour moi, je n'avais pas élu les députés provinciaux. Est-ce que nous en avons? Donc, la gestion de la ville de Kinshasa
pose problème
et partagée. Là où je vais interpeller aussi la population, puisque le gouverneur dit qu'il n'a pas le moyen de sa politique, je pose la question. Est-ce que la population paie-t-elle l'impôt? Si elle paie l'impôt, elle doit bénéficier des retombées de ces impôts. Donc, à l'heure actuelle, je demande au gouverneur, monsieur le gouverneur, sortez de votre bureau, marchez à pied à Kinshasa. J'ai l'impression que vous ne rentrerez plus dans vos bureaux, puisque même nos villages ne vivent pas la crasse comme ça.
Merci. Luc Malembe, nous allons achever ce premier thème avec vous. Si à Kinshasa, le tableau est sombre, quelle est la situation à Bounia? Est-ce que les problèmes, vous avez également des problèmes d'assainissement, d'immondices? Comment ça se passe en Ituri et particulièrement à Bounia?
À l'Aïrong, la situation est la même. Même à Bounia, la salubrité pose problème et c'est quasiment la situation dans presque tout le pays. Donc, c'est pas une situation propre à Kinshasa. Mais le cas de Kinshasa est quand même très préoccupant. J'ai été là et j'ai vu les niveaux, l'état d'immondice qu'on trouve partout par là. Et donc, le cas de Kinshasa devient quand même d'abord préoccupé au plus haut point le président de la République lui-même. On se rappelle que la dernière fois que les immondices de Kinshasa ont été gérés, c'était pas sur le financement de l'Union européenne. C'est quand même grave. Dans un pays où on se dit souverain, indépendant, qu'on soit incapable même de gérer nos propres déchets et qu'on attende que ce soit des Européens qui viennent les gérer à notre place. Donc, je réitère ce que je disais, il va falloir absolument qu'on renouvelle le leadership à Kinshasa, qu'on trouve un autre gouverneur qui a de nouvelles idées, qui a de nouveaux projets et qui est capable du reste du monde, parce que finalement, le gouverneur actuel a montré ses limites.
Alors,
on ne peut
Luc...
pas lui demander d'aller au-delà de ses capacités. Il a montré ses limites, il faut absolument un nouveau leader.
Luc Malembe, puisque vous dites qu'à Bounia, c'est la même chose qu'à Kinshasa, et donc il faudrait revoir le système politique congolais, comme le propose Pius Romain Rolland.
Visiblement, il n'y a aucune politique d'affaiblissement dans notre pays. Il y a un ministère de l'Environnement, et c'est pas beaucoup de ministères, mais qui n'ont aucune politique, et même s'ils avaient des politiques, il n'y a aucun budget qui est affecté. Donc, voilà, toutes les villes, chaque ville est là, et les immondices, c'est là-bas. Par exemple, pour la ville de Guinée, il n'y a même pas un espace prévu pour la décharge des immondices qu'on allait partir par là dans les marchés et tout. Et il y a des rivières qui passent à travers la ville, et c'est dans ces rivières-là qu'on jette tous les déchets produits par la ville de Bounia. C'est une menace grave sur l'environnement et sur les ces rivières qui d'ailleurs essaient d'aérer la ville. Donc voilà, c'est toute une politique qu'il faut. Au niveau national, mais une politique qui, justement, n'existe pas.
Merci, Luc Malembe. Passons à notre deuxième thème de ce soir. L'accord global et inclusif du Centre interdiocésain de Kinshasa, signé le 31 décembre 2016, prévoyait notamment la mise en place des mesures de décrispation politique, la nomination d'un premier ministre issu de l'opposition et la mise sur pied du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral CENSA en sigle. Professeur Jacques Joly, vous êtes sénateur de l'opposition et cadre du MLC. Quelle est votre évaluation de la mise en application de l'accord de la Saint-Sylvestre une année après?
L'instrument accord est là, mais quel est le contenu de l'accord et quelle est l'interprétation des parties prenantes? La force de l'accord, je souligne, c'est le consensus dans l'engagement, le consensus dans l'interprétation, le consensus dans la mise en œuvre. Mais lorsque les acteurs agissent par embuscade ou de mauvaise foi, comme l'ont dit les évêques, mais l'accord n'est plus capable de gérer cette période conflictuelle. Et le choix d'une approche unilatérale au lieu d'une approche bilatérale ou synalagmatique crée des conditions de confrontation. Donc, si nous ne voulons pas la confrontation, il est important que le parti puisse se retrouver pour donner le même sens, la même interprétation de l'accord. Il faut rappeler le parti, non pas pour se partager encore le pouvoir nécessairement, pour que nous trouvions un mécanisme susceptible de nous amener aux élections de manière sereine.
Voilà, professeur Trifon Kinke Mulumba, vous êtes docteur en sciences politiques et professeur de communication politique. En votre qualité de membre du bureau politique de la majorité présidentielle, quelle est votre évaluation à vous de la mise en œuvre de cet accord?
Je crois qu'en effet, il y a eu un consensus découlant d'une rencontre entre partis. Mais le texte de base qui gère la nation, notre Bible à nous tous congolais, la Constitution de la République, ce consensus entre partis privés ne l'a pas élagué. Je pense à l'article 70 qui dit « Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. » Et l'article continue « À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président. » Nous sommes toujours dans le deuxième mandat du président Kabila. Il y a eu certes accord entre partis privés, mais cet accord ne supprime en aucune façon la Constitution en ce qui concerne le président de la République.
Voilà, pour ce deuxième thème, je voudrais juste vous signaler, chers confrères, qu'il nous reste moins de 10 minutes pour terminer cette émission. Et donc, j'aurai besoin de réponses assez courtes pour que nous puissions terminer en beauté. Plus Romain Rolland, vous êtes journaliste à RDC26.com. Quel est votre bilan de la mise en application de l'accord de la Saint-Sylvestre une année après?
D'emblée, je n'ai jamais été d'accord avec cet accord. Ça, je l'ai toujours dit.
Vous n'avez jamais été d'accord?
Je n'ai jamais été d'accord avec cet accord. J'ai toujours dit que c'est un accord suicidaire.
Pourquoi?
Mais vous avez les résultats. Il y a embuscade des acteurs politiques. Ils ont abandonné la Constitution, notre Bible commune. Ils sont allés dans un accord où le peuple n'est pas présent. Dis-moi, cet accord, est-ce que le peuple est présent là-dedans? Puisque tout le monde a toujours dit le peuple, le peuple, le peuple. Et quand est-ce qu'on a interrogé ces peuples-là? On interroge les peuples qu'au référendum.
Donc c'est un accord fantaisiste.
C'est un accord qui lie les acteurs politiques. Ça ne lie pas la nation congolaise. Le livre qui lie la nation congolaise, c'est la constitution. Ce n'est pas un accord. C'est un accord qui lie deux camps politiques où le peuple est pratiquement absent. Et à la recherche de quoi? De postes. Quand tu entends les uns dire l'accord n'est pas appliqué. L'accord n'est pas appliqué pourquoi? Parce qu'il faut qu'on vienne, qu'on élise le fils de Tshisekedi comme premier ministre. À ce moment-là, l'accord est appliqué. Et l'accord n'est pas appliqué puisque Olenga Nkoy est président du CENSA. Il faudrait qu'on l'enlève là-bas, qu'on prenne Pierre Lumbi qui vient de la majorité, le mettre là-bas. Là, l'accord est appliqué.
Alors à la place, pour vous, qu'est-ce qu'il fallait faire?
Ce qu'il faut faire, j'ai toujours dit, et je l'ai toujours redit, et je le redirai toujours. C'est un accord suicidaire, il faut déchirer. S'il faut aller au référendum pour que nous ayons une nouvelle constitution devant permettre à la République démocratique du Congo de s'adapter selon l'environnement politique, il faut y aller. Ce n'est pas la Bible, il n'y a que la Bible qu'on ne peut pas toucher. La constitution, c'est un document qu'on peut déchirer aujourd'hui, c'est un accord des acteurs politiques et du peuple.
Merci. Luc Malembe, correspondant de l'AFP à Bounia et directeur général du site web bouniaactualité.com. Est-ce que vous partagez ce point de vue de Pius Romain Roland qui pense que l'accord, pour lui, ça ne compte pas et même s'il faudrait aller au référendum, il faudrait le faire?
Je suis en partie d'accord avec mon confrère. Moi-même, dès le début, la signature même de cet accord, j'avais dit, moi, que c'était un accord mort-né. Mort-né pourquoi? Parce que on a compté, par exemple, d'abord sur la bonne foi des acteurs politiques pour sa mise en application. Mais c'était déjà une erreur, Alain Ron. Comment on a pu compter sur la bonne foi des gens qui n'en ont jamais eu? C'était déjà mal parti. Donc, la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre dépendait de la bonne foi et du côté majorité et du côté opposition pour qu'ils soient appliqués. Alors qu'on s'est dit que ces deux gens, ces deux camps n'ont jamais eu de bonne foi, c'est des politiques. Il n'y a pas eu de mesures contraignantes dans l'accord. On n'a pas dit, par exemple, au cas où au 31 décembre, ceci n'aura pas été fait, qui en assume la responsabilité? Personne. Donc c'était un accord naïf, mort-né, et voilà les résultats. Aussi, il faut dire aujourd'hui, parce qu'on veut savoir qu'est-ce qu'on fait concrètement. Aujourd'hui, le régime en place, franchement, a violé le seul document qui lui donnait encore un peu de légitimité. Même si je venais de sous le professeur Kinké Moulumba qui parle de quoi le président reste en place et tout, même s'il y avait, selon lui, une légalité constitutionnelle. Mais le président Kabila n'a plus aucune légitimité. Il n'a aucun soutien populaire aujourd'hui pour prétendre continuer à diriger le pays. Franchement, il va simplement falloir que le président ait le courage de reconnaître qu'il n'a plus la légitimité. Et la légitimité est plus importante que la légalité.
Merci.
Il n'en a plus et il ne peut plus, franchement, continuer à diriger ce pays sans avoir, sans qu'on assiste à des drames chaque jour.
Merci Luc Malembe, Dominique Dinanga, journaliste à la radio Top Congo, FM, émettant à Kinshasa. On l'a suivi dans les deux points de vue du professeur Joly et Kinké Moulumba dans ces dossiers réalisés par Guy Maté. Actuellement, la majorité ne jure que par les élections à venir, l'opposition par le respect de l'accord. Comment pourrons-nous aller à des élections apaisées dans ce contexte?
Le professeur Joly l'a bien souligné, il a dit que cet accord était avant tout un consensus, c'est-à-dire des Congolais de différents bords qui se sont retrouvés pour trouver une solution à un problème qui s'est posé. C'était quel problème? C'était l'absence des élections dans le délai constitutionnel, qui n'ont pas été tenus dans ces délais à cause de ce que moi j'appelle mauvaise volonté politique, l'absence de volonté politique de la part de ceux qui devaient donner l'argent à la CENI pour organiser ces élections. Ils se sont retrouvés bien sûr pour trouver solution à ces problèmes, trouver un chemin palliatif. Je ne comprends pas comment mon confrère, mon co-débatteur qui est avec moi dans ce studio peut dire que c'était un accord suicidaire alors qu'à la page 3 de cet accord au chapitre 2, on dit bien que le parti
prenante s'engage à respecter la constitution du 18 février 2006, telle que modifiée en 2011. Alors, aujourd'hui, on nous parle de l'article 70 de la constitution. Mais ici, on parle d'une situation bien clair, c'est-à-dire qu'il y a eu un président déjà élu et avant qu'il prenne les choses en main, le président en place devait diriger cette petite transition. Cet accord n'est pas respecté, je vais aller rapidement, comme le temps va faire défaut. L'accord ne consacrait pas seulement la primature au rassemblement, il y a eu beaucoup de choses. Il y a par exemple sur la décrispation politique, quand vous allez à la page 14, on parle de la décrispation politique, la libération de prisonniers politiques. Mais aujourd'hui, s'il faut faire un petit bilan, Frank Diongo est toujours en prison, Wydie Mulongo est toujours en prison, Jean-Claude Muyambo toujours en prison, Diomi Ndongala toujours en Makala,
Moïse Katumbi
empêché de revenir au pays. Ça, c'est sur le plan décrispation politique. Deuxièmement, les manifestations publiques de l'opposition interdites dans un pays où nous avons une constitution qui garantit les manifestations publiques. Ça, c'est aussi un point. La restriction de l'espace politique. Et puis, quand vous allez à la page 3, on parle des parties prenantes qui s'engagent à respecter la constitution, je l'ai souligné. Et puis sur le processus électoral, l'accord parlait bien sûr du, au plus tard, 31 décembre 2017 pour l'organisation des élections. Nous n'avons pas eu ces élections dans le délai imparti. Alors, mais tout ça, c'est quoi la cause? C'est, je dis bien, et j'insiste, c'est l'absence de la volonté politique de la part du pouvoir en place avec la complicité d'une certaine opposition alimentaire.
Voilà, alors peut-être qu'il faut déjà conclure, Pius Romain Roland, après une année après la signature de l'accord, comment vous entrevoyez la suite du processus politique pour qu'on ait des élections apaisées?
Mais vous l'avez dit tout au début, il y a la révision du fichier électoral, il y a machine à voter, il y a la loi électorale.
Allons aux élections.
Nous allons nous cramponner sur quelque chose qui n'a plus confiance aux gens. J'entends ici, dans l'accord, des crispations politiques. C'est ça la médiocrité.
Alors, concluez.
Vous allez faire partir de la prison les gens qui ont violé.
Concluez.
Et vous en faites toute une évangile.
Merci.
Mais non, ça ne va pas. J'ai conclu pour dire ceci. Peuple congolais, ne suivez plus les acteurs politiques. Allons aux élections. Nos yeux soient rivés vers la CENI, c'est la seule institution qui peut permettre à remettre d'autres institutions légales au pays.
Merci. Luc Malembe, conclusion.
Alain, je ne veux pas être dupe pour parler d'élections. Dites-moi, à quoi pourraient ressembler des élections qu'on organiserait aujourd'hui ou demain avec le régime en place au pouvoir? À quoi ça pourrait ressembler?
Conclusion.
C'est un semblant d'élection dont le résultat est presque déjà connu. Donc, c'est des élections, en tout cas, pour lesquelles personne n'est, avec le régime en place aujourd'hui à la tête,
nous
demander d'aller aux élections qui organisent des élections
bâclées. Merci, Luc Malembe.
Contester, et ça va ouvrir le pays encore une fois au drame.
Moi, merci, Luc. Merci, Luc. Souffrez que je vous arrête. Dominique Dinanga, conclusion.
Je le dis bien et je répète, sans la volonté politique dans ces pays, même en 2050, il n'y aura jamais les élections dans ces pays. Alors, c'est à la population de prendre ses responsabilités.
Merci, cette émission est terminée. Réalisation Guy Maté, supervision Pelé Kipela Mondo, mise en onde Bob Landou, présentation et coordination Alain Irung Mouchige. Merci de votre attention et bon week-end à vous.